Bonjour, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Comment éviter les perturbateurs endocriniens dans notre vie quotidienne? C'est notre thème ce matin. Avec une question, ces substances chimiques mettent-elles vraiment notre santé en danger? Bisphénol A, phtalates, pesticides, métaux lourds, des dizaines et des dizaines de polluants qui perturberaient le bon fonctionnement de nos organismes, seraient impliqués dans certaines maladies et affecteraient gravement le développement normal de la vie intra-utérine. Des molécules et agents chimiques omniprésents dans notre vie quotidienne. En dépit des dénégations de l'industrie agrochimique, les données scientifiques s'accumulent sur les risques sanitaires qui pèsent sur nous et sur nos enfants. Selon l'OMS et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, il s'agit d'une menace mondiale pour la santé humaine et l'environnement. Alors que faire concrètement face à cette menace invisible? Est-il vraiment possible de se débarrasser des perturbateurs endocriniens largement utilisés pour fabriquer des emballages alimentaires, des canettes, des cosmétiques, des chewing-gums, des jouets en plastique? Des tampons hygiéniques, comment repérer ces polluants vicieux, comment préserver la santé des femmes enceintes, des enfants et des adolescents. Nous attendons toutes vos questions et témoignages par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Et puis dans un instant, dans sa petite philo de la pub et des marques, Thibaut de Saint-Maurice s'intéressera à une célèbre marque d'ustensiles en plastique.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Ma salle de bain, par exemple, est un vrai laboratoire de chimie. Mon dentifrice contient du triclosan, de la benzophénone, mon rouge à lèvres, du parabène et mon parfum, des phtalates. Ça continue quand je fais le ménage. Dans les fils de mon aspirateur se cachent des retardateurs de flamme. Il y en a aussi dans les meubles, les rideaux, les peintures. Et ce n'est pas fini. Se faire poser du vernis, c'est aussi absorber du triphénylphosphate. Même nos enfants sont touchés. Appliquer un shampoing anti-poux, c'est l'asperger de permétrine. Toutes ces substances nocives sont des perturbateurs endocriniens. Il y en a plus de 800. Ils ont envahi toutes les pièces de nos maisons. Jusqu'à quel point ces polluants chimiques me contaminent-ils ?
Un extrait d'Envoyé spécial sur France 2, le 5 avril 2016. Avec nous ce matin pour essayer d'y voir plus clair dans la jungle nocive des perturbateurs endocriniens. Trois invités. Bonjour, docteur Robert Barouki.
Bonjour.
Vous êtes professeur de biochimie à l'Université Paris-Descartes, chercheur à l'INSERM et médecin à l'hôpital Necker Enfants Malades. Dernier ouvrage paru. Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette? Bonjour, docteur Véronique Vasseur.
Bonjour.
Vous êtes médecin à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et vous avez publié en poche chez J'ai lu, Désintoxiquez-vous. Et on se souvient évidemment de votre ouvrage Choc, médecin-chef à la prison de la santé. Bonjour Bernard Jégou.
Bonjour.
En duplex de France Bleu Armorique à Rennes, vous êtes directeur de l'Institut de recherche en santé, environnement et travail à l'INSERM et directeur de la recherche à l'École des hautes études en santé publique. Robert Barouki, pouvez-vous nous expliquer de façon claire ce qu'est un perturbateur endocrinien et existe-t-il un consensus scientifique sur ce que c'est?
C'est tout un roman, la définition des perturbateurs endocriniens, mais on va prendre la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé qui fait quand même référence. Ce sont des substances souvent étrangères à l'organisme et qui vont entraîner une modification du système endocrinien, j'y reviendrai. Mais en entraînant ces modifications du système endocrinien, elles vont de ce fait entraîner des effets pathologiques. Et donc il y a une relation entre le fait de modifier le système endocrinien et les effets pathologiques avec des conséquences donc sur les organismes, les populations, peut-être sur la descendance. Le système endocrinien, c'est le système hormonal. Donc vous savez, les hormones, c'est de la communication, c'est des messagers qui vont d'un tissu, d'un organe vers un autre organe. Par exemple, l'insuline part du pancréas vers le foie pour dire absorber du sucre, par exemple. Les hormones sexuelles, ça va entre les ovaires, les testicules, vers le cerveau pour informer le cerveau. Donc c'est de la communication, les hormones. Et vous perturber ces communications.
Docteur Véronique Vasseur, si je comprends bien, les perturbateurs endocriniens se font passer pour nos hormones.
C'est des leurres, c'est-à-dire que soit ils se font passer pour l'hormone, soit ils bloquent le récepteur, ils bloquent la communication. Voilà, il y a deux modes de fonctionnement.
Pourquoi les hormones sont-elles si importantes?
Elles règlent tout, elles règlent absolument tout dans l'organisme. Donc les conséquences sont dramatiques sur les générations à venir, sur les enfants, et puis tous les cancers hormonodépendants qui découlent de ces dysfonctionnements.
Docteur Robert Barouki, sur l'importance du système hormonal?
Ben, c'est le système donc de communication. On va prendre des exemples. Hein. Vous avez les hormones thyroïdiennes. Pour que le cerveau d'un enfant se développe normalement et que les capacités cognitives se développent, on a besoin d'hormones thyroïdiennes. Ce qui fait que quand on manque d'iode, on a des problèmes de développement et de capacité intellectuelle. Donc, si vous perturbez les effets de ces hormones, si vous vous opposez à ces hormones ou vous les fabriquez au mauvais moment, vous allez avoir un développement cérébral qui ne se fera pas de manière correcte et donc un risque de baisse de quotient intellectuel ou d'autres effets.
Bernard Gégou, de quelle façon ces substances perturbe-t-elle notre organisme? Prenons un exemple, le bisphénol A interdit dans les biberons depuis 2010. Comment les perturbateurs endocriniens présents dans un biberon pénètrent-ils dans notre organisme?
Alors, sur les mécanismes d'action du bisphénol A et de ses substituts, puisque vous le savez, la France a été pionnière en faisant interdire le bisphénol A dans les biberons, il a bien fallu le remplacer par d'autres molécules. D'ailleurs, autre molécule dont on ne connaît pas trop la toxicité éventuelle. Mais en tout cas, en particulier sur le bisphénol A, on s'est rendu compte que le répertoire d'action sur les hormones de cette molécule chimique peut être très large. On a pensé au début qu'il mimait l'action des hormones féminines, ce qui est le cas sur certains systèmes, mais mis en évidence dans les laboratoires. Aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'il peut inhiber la production des hormones mâles. Donc c'est un spectre d'action qui est très large. Le point maintenant important, c'est de bien réaliser que c'est un mécanisme d'action. Une substance chimique n'a pas besoin d'agir de cette façon-là pour être toxique. Mais c'est un mécanisme d'action particulier et qui est étudié depuis peu de temps. C'est une discipline très jeune et c'est pour ça qu'il y a encore un certain nombre d'incertitudes, bien entendu, autour de la façon dont ça fonctionne. En tout cas, on peut substituer la présence de cette molécule, ça s'est démontré par l'industrie. Maintenant, encore faut-il étudier les substituts, comme je disais.
Ça pénètre comment dans l'organisme? Ça pénètre, quand on les respire, on les ingère, c'est par le contact, docteur Masseur.
C'est partout. C'est par le contact, c'est par l'ingestion, c'est partout. C'est dans l'eau, dans les poissons, dans les plastiques, dans les contenants, dans les jouets, dans la maison. Il y en a partout. Et c'est des doses absolument microscopiques, mais chroniques. Donc, qui ont un impact très, très fort et très, très dramatique sur les enfants et sur la fertilité aussi.
Je vais prendre un exemple, si vous voulez.
Docteur Marouki.
Voilà, le bisphénol A, par exemple, vous allez l'avoir dans les aliments parce que dans les boîtes de conserve, il y avait donc c'était recouvert d'une substance qui contient du bisphénol A. Donc, l'alimentation. Les caissières vont toucher des tickets de caisse. À l'époque, maintenant, ça a été réglé, mais à l'époque, ces tickets de caisse contenaient du bisphénol A. Donc là, par le contact, par le transport par la peau, hein, vous allez être. Éventuellement, on peut en trouver aussi dans l'air, hein, du bisphénol A. Donc c'est différentes manières, même pour une seule substance, on peut se contaminer de différentes manières.
Et puis tout à l'heure, nous écouterons le reportage de Thomas Chevineau qui a suivi une association qui organise des ateliers pour débusquer chez soi les perturbateurs endocriniens. 01 45 24 7000, grand bien vous fasse, @radiofrance.com pour témoigner et poser toutes vos questions. Alors lui, c'est un perturbateur de certitude, Thibaut de Saint-Maurice et sa petite philo de la pub et des marques.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali, j'aime assez perturbateur d'un certain incertitude.
Alors vous penchez ce matin sur la célèbre marque d'ustensiles de cuisine Tupperware et sur sa réaction face aux problèmes posés par les perturbateurs endocriniens.
Quelle est la femme qui ajoute un peu de beurre aux épis à maison? Qui travaille à son heure, sans autant délaisser
ses chers petits larrons.
J'ai une réunion Tupperware, mais j'aurai fini avant la sortie de l'école. On se retrouve à la maison? À tout à l'heure, mon chéri.
C'est la femme en question,
présentatrice à domicile.
Elle anime des réunions,
formule le devant tout facile.
Dans un climat de sympathie,
elle se sent joindre debout.
Renseignez-vous, pourquoi pas.
Extrait donc d'une publicité donc de la marque Tupperware, mais de 1972.
Vous n'étiez pas né.
Voilà, c'est assez incroyable. Elle est bourrée de stéréotypes. On l'a entendu hein, sur la répartition des rôles, notamment entre l'homme et la femme, et qui en même temps fait des produits Tupperware une sorte d'instrument d'émancipation, parce que en gros l'idée c'est que grâce au Tupperware, une femme peut travailler tout en assurant sa fonction de cuisinière domestique et familiale. On l'entend, elle sera rentrée pour aller chercher les enfants. 40 ans plus tard, les sabots sont un peu moins gros, mais la promesse reste finalement dans la même perspective. Hein. Tupperware nous promet aujourd'hui, à nous, tous ses clients, de se simplifier la vie. Alors, on connaît tous cette marque qui est entrée dans le registre de notre quotidien, justement, et un peu comme Frigidaire, Bic ou Post-it, hein, c'est devenu un nom commun pour désigner donc ces boîtes en plastique qui permettent de conserver des aliments ou de les réchauffer.
Alors, simplifier la vie, c'est plutôt une promesse tentante, Thibault ?
Oui, évidemment, parce que si le quotidien nous pèse parfois à lit, c'est à cause de la répétition de petites difficultés. Vous savez, de ces complexités minuscules qui sont pas bien graves en elles-mêmes, mais dont la répétition quotidienne, justement, alourdit notre vie. Comment conserver les restes du repas d'hier ou comment transporter la salade que vous avez préparée aujourd'hui pour déjeuner au travail ? Bah, ça doit pas nous faire oublier que simplifier, en fait, ça n'a précisément rien de simple. Pourquoi ? Parce que simplifier, c'est toujours un peu ambigu. D'un côté, quand on simplifie, on se débarrasse de complications inutiles en réduisant donc une complexité. Mais d'un autre côté, réduire la complexité, c'est prendre le risque d'aller trop vite et de passer à côté du détail et de tomber dans le simplisme.
Et c'est par exemple faire du plastique la solution miracle sans se soucier de ce que contient ce plastique.
Oui, exactement. Et c'est ce qui fait que jusqu'à l'automne 2012, le plastique utilisé par Tupperware contenait du bisphénol A. Mais depuis septembre 2012, la marque s'est engagée dans la suppression du bisphénol A en changeant sa recette de plastique. La simplification promise ne peut donc tout simplement pas oublier la complexité du réel. Elle doit au contraire en tenir compte. Et c'est justement la mise en garde que rappelle le grand philosophe Edgar Morin dans son livre intitulé « Introduction à la pensée complexe ». Pour ne pas qu'une simplification tombe dans le simplisme, il faut intégrer la simplification comme une phase dans un processus plus large que l'on prend le temps de constituer et qu'Edgar Morin appelle précisément la pensée complexe. Alors le simplisme, c'est de croire qu'il suffit de simplifier pour résoudre un problème. C'est en rester à une méthode de séparation et de réduction des éléments d'un problème. Mais comme l'écrit Edgar Morin, le vrai problème, c'est que nous avons trop bien appris à séparer. Il nous faut apprendre à relier, apprendre à penser ce qui est tissé ensemble. Voilà, trouver une solution pour conserver des aliments et ne pas gaspiller, d'accord, et en même temps, faire en sorte que la conservation ne soit pas dangereuse pour la santé. C'est cette complexité-là du quotidien avec laquelle nous devons jouer aussi en permanence pour échapper à l'illusion de la simplification comme recette universelle. Alors finalement, on peut le dire autrement, hein, on ne résout pas un problème simplement en le mettant dans des petites boîtes hermétiquement fermées. Encore faut-il s'assurer d'abord que les boîtes elles-mêmes ne sont pas une partie du problème.
Bernard Jégou, en duplex de Rennes, vous vouliez réagir ?
Oui, alors sur deux choses, sur les petites boîtes justement, plus elles sont souples, plus elles contiennent des phtalates, puisque les phtalates, on peut les qualifier de lubrifiant des matières plastiques. Le problème, c'est qu'ils ne se fixent pas de façon ferme à ces matières plastiques et qu'ils diffusent ensuite dans les aliments. Et quant à Edgar Morin, si vous voulez, c'est une pensée qui m'inspire, qui nous inspire dans les laboratoires, en particulier quand on travaille sur les hormones, parce que s'il y a bien un système complexe, c'est le système hormonal. Et toute la difficulté dans les laboratoires, sachant qu'on ne peut pas administrer volontairement, naturellement, un pesticide ou des phtalates à des volontaires, c'est à la fois de réaliser des manips très simples, très analytiques, je dirais, avec des systèmes de culture, par exemple, qui sont très loin de la complexité d'un être humain, et de relier ensuite les mécanismes d'action qui sont mis en évidence à ce qui se passe chez l'individu plein et entier, je dirais, son système hormonal, voire à la population. Donc, les incertitudes, encore une fois, font partie de notre métier. Et notre métier, c'est de nourrir le débat et de nourrir des informations aussi objectives l'ensemble des autorités et les citoyens, bien sûr.
Robert Barouki.
Oui, il y a une simplification. Par exemple, quand on dit il y a 800 perturbateurs endocriniens, 1000 perturbateurs endocriniens, il faut faire un tout petit peu attention parce que on n'a pas des arguments solides pour l'ensemble de ces molécules chimiques. On est à peu près sûr pour quelques substances, hein, et puis pour la plupart, on les suspecte d'être des perturbateurs endocriniens. C'est important quand même d'établir cette hiérarchie. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire quand on suspecte une substance, mais la science ne dit pas plus que ça. Ensuite, la décision, on peut faire ce qu'on veut, mais la science ne dit pas plus que ça.
Alors, on verra tout à l'heure comment éviter les perturbateurs endocriniens partout dans la maison. Par principe de précaution, on jette toutes les boîtes Tupperware d'avant 2012, Véronique
Vachard. On chauffe surtout pas le plastique. Ouais, ouais. Ça, c'est...
Et pourquoi ?
parce que ça diffuse encore plus. Et avant, moi, j'ai metté les biberons dans le micro-ondes. Hein. Bon, c'est des trucs qu'il faut plus jamais faire. Et faut éviter le plastique partout. Malheureusement, bon, il faut essayer de rester dans la nature. Voilà, il faut pas des produits trop transformés. Tout ce qui est anti-tache, anti-adhésif, imperméabilisant, etc. Les perturbateurs, ils sont même dans les godasses de sport, hein. Ils sont partout.
On y reviendra.
Donc il faut rester très simple et de plus en plus nature, bio, papier, éviter le plastique, etc.
Le verre.
Voilà.
On y reviendra tout à l'heure. Merci Thibaut de Saint-Maurice, la petite philo de la pub et des marques. C'est tous les jeudis dans Grand Bien vous fasse. Une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess, avec l'aide de Clara Marliot. La programmation musicale est signée Muriel Pérez et c'est réalisé par Claire Destacan.
À l'ombre des fleurs et la tête chenue, il veille au fond des cœurs, le gardien. Sous les cerisiers, au printemps, il demeure le gardien des fleurs, le gardien des fleurs, le gardien des fleurs. Sous la brume légère, les pas des promeneurs, les restes de l'hiver, le retour des fleurs. Ombre passagère, on sait d'ici d'ailleurs qu'il est feuille les pleurs, le gardien.
Freda, le gardien des fleurs.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h26, comment éviter les perturbateurs endocriniens dans notre vie quotidienne? C'est notre thème ce matin avec Robert Barouki, Véronique Vasseur et Bernard Jégou. Alors en préparant cette émission, j'ai souvent lu que les perturbateurs endocriniens étaient un vrai casse-tête pour les scientifiques. En laboratoire, par exemple, de faibles doses peuvent provoquer des effets très délétères, c'est ça Robert Barouki?
Oui, c'est une des caractéristiques de certains perturbateurs endocriniens où on a réussi à observer des effets à ce qu'on appelle les faibles doses. Faibles doses, ça veut dire les doses auxquelles nous sommes exposés naturellement, sans qu'il y ait un accident ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et donc, dans certaines situations, on peut observer des effets à faible dose. Parfois qu'on n'observe pas nécessairement à très forte dose, ce qui est un peu paradoxal pour la plupart d'entre nous. Donc ça remet en question un certain nombre de concepts et on est en train de travailler dessus.
Bernard Jégou, on peut dire que de nombreux perturbateurs endocriniens ont un comportement imprévisible.
Alors, comme le disait Robert Barocchi, la plupart des substances suspectées perturbateurs endocriniens n'ont pas encore été étudiées dans le détail. Hein. On parle là, bien sûr, de centaines de molécules qu'il faut étudier. Il y a des surprises, effectivement, ces courbes en cloche au lieu d'observer une proportionnalité entre la dose et les effets, eh bien on peut, comme Robert aussi vient de le dire, à faible dose voir des effets, à forte dose ne pas en voir. Donc c'est vraiment tout le maquis de la complexité, pour reprendre le terme tout à l'heure, qu'il faut démêler. Les choses avancent. C'est pas parce que un sujet est complexe qu'on fait du surplace. Alors, en même temps, les scientifiques, leur rôle, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils fassent le point aussi objectivement que possible sur l'état des choses. Je crois que l'attitude générale, c'est la précaution, c'est-à-dire une grande vigilance, la décroissance forcément des expositions, l'accroissement des connaissances en revanche, et puis les courts délais pour l'action, sachant que la pureté n'existe pas. Dans la nature, suffit de voir comment vivaient nos ancêtres préhistoriques, l'air intérieur qu'ils respiraient était extraordinairement cancérogène. Mais aujourd'hui, on a tous les outils pour observer les choses. Et encore faut-il que les moyens soient mis, bien sûr, pour que les expériences puissent être réalisées et qu'on puisse réaliser les embauches aussi dans le labo pour faire le travail.
Docteur Barocchi, si j'ai bien compris, la dose ne fait pas la dangerosité. Des molécules peuvent avoir des effets plus importants à faible dose qu'à de fortes concentrations, c'est ça?
Dans certaines situations, d'accord. Oui, pour certaines substances. Il ne faut pas généraliser et en faire. Donc c'est, dans certains cas, ça a été mis en évidence et on ne comprend pas toujours le mécanisme, mais c'est une réalité et il faut en tenir compte actuellement.
Vous, Véronique Vasseur, vous écrivez que les perturbateurs endocriniens sont des molécules chimiques vicieuses.
Oui, elles sont vicieuses parce qu'elles sont invisibles et qu'elles sont absolument partout, et dans l'air, et dans l'eau, et dans les poissons, et dans les fruits, et dans les légumes, et dans tout ce qui nous entoure. Donc, pour les traquer, il y a quelques mesures assez simples, mais on ne pourra pas éviter la totalité. Le mal, il est déjà fait et il faut agir pour les générations futures parce que sinon on ne pourra plus se reproduire. Donc de toute façon on disparaîtra.
Bernard Jégou.
Oui, on peut parler des mélanges aussi parce que souvent...
L'effet cocktail,
quand on
c'est ça?
Pardon?
C'est l'effet cocktail?
Oui, voilà, c'est l'effet cocktail. Ce qu'il y a d'intéressant justement compte tenu des effets faibles doses, c'est que sur différents systèmes, en laboratoire ou sur les poissons ou sur les mollusques, il a été montré qu'un mélange faible dose peut exacerber l'effet global ou exacerber dans le mélange l'effet d'une molécule qui habituellement n'agit pas à faible dose. Et ça, c'est important. Le problème, et ça, c'est un des défis que nous rencontrons dans les laboratoires, encore faut-il que nous puissions démontrer la preuve du concept chez les humains eux-mêmes. Et à nouveau, on se heurte à la difficulté d'expérimenter chez les humains, mais là aussi, les choses avancent.
Alors, un message d'Emmanuel qui nous dit « Je crois savoir que les emballages plastiques contenant des perturbateurs endocriniens sont signifiés par les chiffres 3, 6 ou 7 dans un petit triangle. Pouvez-vous me le confirmer? Si c'est bien le cas, j'ai acheté un gobelet pour bébé sur lequel, après vérification, figurait le chiffre 7. Comment ce type de substance peut-elle être contenue dans du matériel depuis agriculture à l'heure actuelle et avec les connaissances que nous avons en la matière? Robert Barocchi.
Alors je ne vais pas vous confirmer les chiffres, on peut aller sur internet très facilement avoir toutes sortes de confirmations, l'information elle est présente et tout le monde peut aller regarder à quoi correspond ces différents chiffres. On avance, il y a eu un moment où on ne faisait absolument pas attention à ce qu'il y avait donc, dans des instruments de puériculture ou dans des tubulures médicales où c'était franchement plein de phtalates. En particulier, nous, au laboratoire de biochimie clinique, on en trouvait par hasard chez des enfants. On trouvait dans l'exploration des pics de phtalates.
Les phtalates, on les retrouve où, par exemple ?
menton tout plastique un peu mou. Et puis ensuite, dans beaucoup d'autres choses. Hein. Mais enfin, le plus fréquent, c'est tous les plastiques un peu mous. Vous allez avoir des salades parce que c'est un peu le lubrifiant des plastiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors que le bisphénol, c'est plutôt des plastiques un peu durs.
Dans les cosmétiques aussi, oui. On n'a pas parlé.
On va en parler tout à l'heure des cosmétiques. Alors que sait-on des pathologies soupçonnées d'être à l'origine d'une exposition aux perturbateurs endocriniens? Robert Baroucki, il faut faire attention à ne pas faire des perturbateurs endocriniens les responsables de toutes les pathologies. Hein. Mais qu'est-ce qu'on sait de façon sûre?
Quand je vous fais la liste de toutes les pathologies, c'est pratiquement beaucoup de pathologies chroniques. C'est pourquoi ce sont des substances un peu vicieuses. C'est que si vous êtes exposé à un perturbateur endocrinien, c'est pas tout de suite, vous vous rendez absolument pas compte. Mais on pense que ça peut être à l'origine, en tout cas favoriser une augmentation du risque de pathologies comme certains cancers, notamment des cancers hormonaux dépendants, l'obésité,
le cancer de la prostate, voilà, le cancer du sein,
voilà, mais d'autres aussi. Il y a aussi des effets sur l'obésité et les maladies métaboliques de type diabète, le développement neurologique, neurocognitif de l'enfant, certaines maladies neurodégénératives, les allergies, des problèmes immunitaires, en tout cas, et la fertilité. Bon, et là, c'est plutôt Bernard qui en parlera le mieux.
Bernard Jégou, qu'a-t-on constaté dans certaines régions du monde à propos des perturbateurs endocriniens?
Alors, les expositions sont très différentes dans différents endroits du monde. On se rend compte qu'il y a un gradient, par exemple, nord-sud pour notre continent, ou dans le nord, on ne sait pas toujours pourquoi. Dans le lait maternel, par exemple, on peut trouver des concentrations plus élevées de substances chimiques que dans nos régions. Vous savez aussi, ça on l'a vu sur l'atrazine, qui est un pesticide qui est interdit chez nous, on l'exporte. Il est moins présent chez nous, mais il est très présent dans certaines régions de l'Afrique notamment. Donc toute la question là aussi c'est de mettre en place les outils de surveillance de la population, et comme d'habitude les plus forts investissements sont sur notre continent et il est difficile de faire des comparaisons mondiales. Il reste que si on prend certains paramètres qui sont associés à la reproduction chez les humains, on observe que en certains endroits du monde, il faut surtout pas généraliser, une diminution de la qualité spermatique humaine a pu avoir lieu, notamment à Paris intramuros, mais ça n'est pas vrai partout. Et toute la question, et on est incapable de le dire aujourd'hui, c'est de savoir si une baisse de quelques pourcents de la production spermatique humaine des spermatozoïdes se traduit par une diminution de la fertilité. Et ça, on ne peut pas le dire. On n'a aucune indication chez l'homme actuellement.
Et ce qui est compliqué, docteur Vasseur, c'est que toutes ces pathologies sont multifactorielles et sont liées à notre mode de vie. Les pathologies évoquées par Robert Baroucki, elles sont liées également au mode de vie. C'est pas simplement les perturbateurs endocriniens.
Non, c'est le mode de vie, mais c'est ce que disait Morin. C'est le... L'hyper-simplification de la vie, soi-disant, entraîne tous ces désordres. Hein. Il faut revenir à la nature. Mais je vous dis moi je suis pas défaitiste, mais le mal est fait. Il y a des pesticides partout. Il y a des précautions à prendre de base, très simples pour éviter, mais ils sont partout.
Mais on y reviendra
dans toutes les crèmes, les cosmétiques, les dentifrices.
On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure, docteur Vasseur. Mais la toxicité des perturbateurs endocriniens se révèle à certaines périodes de la vie, la grossesse d'abord.
Oui.
Toutes les femmes en âge d'avoir des enfants sont contaminées par des perturbateurs endocriniens. Quels sont les effets sur le fœtus pendant la grossesse?
Les effets, déjà, ils sont sur la fertilité masculine avec une diminution. C'est vrai que c'est différent suivant les régions, mais les différentes études montrent qu'il y a quand même une diminution du nombre de spermatozoïdes par millilitre, ça c'est évident. Il y a quand même de plus en plus de procréation médicalement assistée parce que la période de s'allonge pour avoir un enfant. Après, sur les enfants, il y a des pubertés précoces, donc moins de 8 ans pour les filles, moins de 9 ans pour les garçons, et puis tous les cancers hormonodépendants.
Mais sur le risque pendant la vie intra-utérine, en 2005, des scientifiques américains ont prélevé quelques gouttes de sang du cordon ombilical de 10 bébés, et là on constate que le corps de ces nouveau-nés renfermait 287 molécules différentes, avec beaucoup de poison, du plomb, du mercure, du bisphénol A, des phtalates, des PCB. Robert Baroucki,
c'est le c'est notre cas à tous. Simplement, oui. Un bébé n'a pas encore des systèmes de défense aussi développés qu'une personne adulte. Et donc, là, il est peut-être plus vulnérable. Et le problème du développement du fœtus, donc pendant la grossesse, c'est que une exposition de la mère, même transitoire à certaines de ces substances, pourrait avoir des effets qui ne se révèlent pas tout de suite. On voit rien, c'est vicieux comme on a dit, mais 10 ans, 20 ans plus tard, vous pouvez avoir une augmentation du risque de ces pathologies liées à une exposition qui a eu lieu 20 ans plus tôt. Donc c'est sur le long terme et c'est pourquoi c'est difficile à mettre en évidence et qu'il faut quand même agir par précaution.
Bernard Jégou.
Oui, justement, c'est la durée, le tempo de la recherche par rapport à la naturelle impatience. On a besoin d'avoir d'informations, c'est clair. Je prends juste un exemple, on parle de la grossesse, elle dure déjà 9 mois. Et si on veut suivre la croissance de l'enfant pour objectiver des effets éventuels négatifs de certaines expositions, eh bien c'est des années. Et vous voyez, sur la cohorte pélagique en Bretagne, les mères ont été suivies il y a 10 à 14 ans par Sylvaine Cordier et par Cécile Chevrier. Ça n'est qu'aujourd'hui qu'on peut faire appel aux familles pour qu'ils nous envoient les petits-enfants à la période de la puberté pour voir s'il y a des problèmes. Donc il y a toute cette durée qu'on n'a pas chez les animaux, bien sûr, mais le problème, c'est d'extrapoler ensuite les résultats observés sur l'expérimentation animale à la population humaine. Et là, on sait bien que c'est un pari difficile.
Les enfants sont-ils particulièrement vulnérables aux perturbateurs endocriniens ? Dans le numéro de mai de 60 millions de consommateurs, un labo indépendant a recherché la présence de 254 molécules auprès de 43 filles et garçons âgés de 10 à 15 ans et qui vivaient à la ville et à la campagne. Et en moyenne, dans cette étude, eh bien, on a retrouvé 34 molécules des perturbateurs endocriniens.
Oui, donc comme on l'a dit, donc les bébés, les enfants, mais on peut le faire sur les députés européens, les futurs députés de l'Assemblée nationale. On en aura hein, tout le monde est exposé
est-ce que les
à
enfants,
des doses.
Est-ce que les enfants sont
traces,
particulièrement vulnérables?
Ils sont vulnérables pour deux raisons. D'abord, ils s'en débarrassent peut-être un peu moins bien. Deuxièmement, par un certain type de comportement. Si vous donnez un jouet en plastique et qu'un enfant va le mettre à la bouche, évidemment, l'exposition va être plus importante. Et troisièmement, il peut y avoir des effets chez les enfants parce qu'ils sont en cours de développement qui ne seront pas visibles tout de suite, mais dont la manifestation va se révéler beaucoup plus tard.
Bonjour Serge.
Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour.
Vous appelez de la Meuse, où exactement ?
Un petit village à côté de Bar-le-Duc.
D'accord, il s'appelle comment le village ?
C'est Tronville-en-Barrois. Tronville-en-Barrois.
Très bien, alors, que vous inspire notre thème du jour sur les perturbateurs endocriniens ?
Voilà, je suis cette affaire depuis quelques années maintenant, comme ça, par curiosité. Mais il y a plus de 10 ans, j'ai lu dans le Courrier international, une étude était menée dans la région du sud-ouest Montpellier, je crois, et piloté aussi par l'Europe, concernant, bien entendu, cette étude épidémiologique concernant les perturbateurs endocriniens, particulièrement chez les enfants qui habitaient à la campagne et qui présentaient des hypertrophies des organes génitaux et autres. Et je voudrais savoir si vous êtes au courant de cette étude et ce qu'il en est.
Robert Barouki.
Oui, il y a des effets donc qu'on peut attribuer aux perturbateurs endocriniens sur les organes reproducteurs qui sont différents. Il y a la non-descente des testicules, il y a certains des manifestations qu'on appelle l'hypospadias. Bon, il y a toute une série d'effets qui ont été bien caractérisés, que d'ailleurs Bernard Jégou connaît très bien et beaucoup de collègues internationaux ont pas mal travaillé dessus et qu'on suspecte les perturbateurs endocriniens. Alors, ça me permet de rappeler une chose, la plupart des pathologies dont on parle sont multifactorielles, on l'a dit tout à l'heure, et il ne faut pas du tout oublier les autres facteurs. C'est une augmentation du risque sans doute, mais il ne faut pas du tout penser que c'est les perturbateurs endocriniens qui expliquent tout ça.
Hein. Bernard Jégou.
Oui, il faut surtout se garder d'une vision catastrophiste. Les études auxquelles on fait référence sur les organes génitaux, d'abord, la puberté, par exemple. Une puberté très, très précoce, 3-4 ans, qui est catastrophique, bien entendu, a une cause médicale. Souvent, c'est une tumeur sur les glandes sérénales ou une tumeur sur la glande hypophyse. Et ça n'a rien à voir avec les perturbateurs endocriniens. L'évolution de la puberté, la survenue tendanciellement plus précoce de la puberté. C'est une évolution qui est liée globalement aussi à la société. Historiquement, les humains avaient moins accès à la nourriture, vivaient dans des conditions beaucoup plus difficiles, en l'occurrence dans nos pays où ces études ont été faites. Et donc, il faut là aussi dégager avec beaucoup d'objectivité, beaucoup de travail, ce qui est lié aux perturbateurs endocriniens. Et on sait chez l'animal qu'on peut provoquer un certain nombre de choses, de la situation réelle, et se garder encore une fois d'un tableau catastrophiste qui inquiète la population, les mamans, les enfants, etc.
Docteur Vasseur, est-ce que l'explosion des pubertés précoces est liée aux perturbateurs endocriniens? Il y a une étude réalisée par Santé publique France qui recensait le nombre d'enfants atteints de puberté précoce pathologique entre 2011 et 2013.
Oui, chaque année, plus dans le sud.
Ouais, plus dans le sud. Oui. Et chaque année, un peu plus de 1150 filles et de 110 garçons présentaient des signes pubertaires avant l'âge de 8 ans chez la fille et de 9 ans chez le garçon.
Oui, j'ai vu cette étude et c'est plus dans le sud que dans le nord. Moi, est-ce que c'est les pesticides? Est-ce que c'est
Robert Barouki, qu'est-ce qu'on sait sur les pubertés précoces?
Alors, c'est une excellente étude, mais qui est une descriptive, c'est-à-dire elle vous dit il y en a plus à tel endroit qu'à tel endroit, etc. Hein. Et d'ailleurs, ce que cette étude montre aussi, c'est que si vous prenez un autre critère qui est une autre manifestation sur le système de reproduction, ce ne sont pas toujours les mêmes endroits qui sont touchés. Donc, c'est multifactoriel, hein, à mon avis, c'est clair.
Allez, dans un instant, nous vous dirons où l'on peut retrouver les perturbateurs endocriniens dans sa vie quotidienne. Question, témoignage, réaction, 0145 24 7000, grand bien vous fasse, à radiofrance.com.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. That charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek. When we're out together, swinging cheek to cheek. You, that charm about you, it will carry me through right up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek. When we're out together dancing, out together dancing cheek to cheek.
Et ça fait du bien, Fred Astaire, 11h moins le quart.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
On les trouve. trouve dans les nappes phréatiques, le maquillage, la nourriture et même les couches pour bébé. Eux, ce sont les perturbateurs endocriniens. Derrière ce nom un peu barbare se cache un des poisons modernes de notre société. Les perturbateurs endocriniens sont des substances naturelles ou artificielles qui pénètrent dans l'organisme par la bouche, le nez, la peau. Elles y interfèrent avec le système endocrinien, c'est-à-dire les organes qui sécrètent des hormones, et entraînent des effets néfastes chez une personne, voire ses descendants. Présents dans certains produits industriels, mais aussi dans l'eau, l'air ou l'alimentation, leurs noms ne vous seront peut-être pas étrangers. Le bisphénol A, les phtalates, les parabènes dans le shampoing, les dioxines comme le PCB, un isolant électrique presque ininflammable, nous sommes exposés dans notre vie à plusieurs centaines de perturbateurs endocriniens, ce qui entraîne un effet cocktail et aggrave les effets de chaque perturbateur endocrinien pris individuellement. Éviter les perturbateurs endocriniens, c'est donc quasiment mission impossible.
Petite révision grâce à cette vidéo diffusée sur France TV Éducation en mars dernier. Comment éviter les perturbateurs endocriniens dans notre vie quotidienne? C'est notre thème ce matin avec Robert Baroucki, Véronique Vasseur et Bernard Jégou. Et je vous propose d'écouter le reportage de Thomas Chauvineau. Thomas qui a suivi l'association WECF, une association de femmes qui organise des ateliers où l'on peut apprendre à débusquer chez soi des perturbateurs endocriniens. Thomas Chauvineau s'est rendu chez Isabelle Trousseau, membre de l'association. Ensemble, ils ont traqué les perturbateurs dans toutes les pièces de la maison.
Le nid à perturbateurs endocriniens, c'est plutôt la salle de bain, oui. Pourquoi ?
On est dans votre salle de bain.
On est dans la salle de bain. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la salle de bain ? Des produits de consommation quotidienne, courante. Maquillage. Gros nid à perturbateurs endocriniens, les maquillages, les vernis à ongles, les fonds de teint, les maquillages pour les yeux, etc. Les crèmes solaires ont aussi des filtres UV, on arrive sur l'été, c'est important de le dire. Comme le dentifrice, par exemple. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut encore trouver dans du dentifrice ? Eh bien, du triclosan. L'idée, c'est quand même d'aller regarder un petit peu les étiquettes, de regarder un petit peu les composants. Alors, on ne peut pas tous les retenir, hein, bien sûr. Mais celui-là, quand même, triclosan, il est facile à retenir et celui-ci est reconnu comme étant un perturbateur endocrinien. Il faut savoir lire. Une clé de lecture pour les cosmétiques, parce que c'est quand même assez difficile à lire. Plus la liste est longue, plus potentiellement il y a des choses à risque dedans.
Bon, c'est angoissant votre salle de bain, non ?
Mais non, mais il y a des solutions. Vous voyez, on peut se prémunir. Il ne faut pas le vivre comme une fatalité. On a des solutions et des solutions accessibles. On regarde des produits plus simples. On se fait plaisir avec des produits bio de temps en temps, on peut fabriquer, c'est aussi un plaisir de fabriquer et c'est beaucoup moins cher.
On continue ?
On continue. On va aller dans la cuisine.
D'accord.
Parce que là aussi, on retrouve des perturbateurs endocriniens. Dans la cuisine, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Ah, un gros point dans la cuisine et en contact alimentaire. Le plastique.
Le fameux film étirable.
Alors voilà, par exemple, bon, on a plusieurs familles de plastique. Voilà. Alors celui-là, c'est un film étirable en PVC. Le polychlorure de vinyle. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le PVC ? Des phtalates.
Bon, ça veut dire qu'il faut se séparer du film étirable ?
Alors, mieux vaut, de toute façon, le plastique en contact alimentaire, on évite surtout chauffer. On évite parce que qu'est-ce qui favorise la migration du plastique dans l'aliment ? La chaleur, les substances grasses ou acides.
Mais c'est pas une obsession au bout d'un moment, quoi ? On devient pas un peu terrorisé de voir
mais pas du
la
tout.
Moindre boîte de conserve, ça va pas, le film étirable, ça va pas,
non,
le
pas
maquillage,
du tout.
Ça va pas, on en parlait dans la salle de bain.
Oui. C'est une habitude à prendre, à partir du moment où on est informé et on sait. À partir du moment où on est informé, on peut changer. Et on a tous le pouvoir de changer les choses de la maison pour limiter son exposition au quotidien. C'est accessible. Il y a un pouvoir. On n'est pas que des consommateurs. Hein. On est des citoyens avec un pouvoir d'action et on n'est pas obligé de subir ce que les industriels nous mettent en vente. Un exemple concret, c'est que depuis le 1er janvier 2015, vous voyez cette boîte de conserve. Vous voyez, à l'intérieur, il y a une résine, hein, une résine blanche qui permet à l'aliment de ne pas s'oxyder au contact du fer. Depuis le 1er janvier 2015, grâce à cette réglementation à laquelle nous avons participé auprès du gouvernement, le bisphénol A est interdit dans cette résine, il était présent.
Alors là, on arrive...
Dans la chambre des enfants, voilà. En revanche, il y a des marques qui peuvent s'en servir comme argument commercial, sans BPA, sans phtalate, voilà, sans PVC, pardon. Et vous voyez, cette, Cette petite girafe dont je ne citerai pas le nom, mais bien connue, hein, elle est...
C'est pas la peine de la citer.
Eh bien, ça, c'est un produit qu'on aime bien parce que c'est du caoutchouc naturel. Ce sont des encres alimentaires, donc le bébé peut mâchouiller sans risque. On est quand même plus tranquille avec ce produit plus naturel.
Et c'est français.
Et c'est français, en plus.
C'est un gros succès commercial.
Voilà, tout à fait. Pour les jouets, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de laver le produit, le jouet, avant de le donner au bébé, au jeune enfant, si possible. On peut l'aérer aussi, pour que toutes ces matières plastiques, ces éventuels parfums, s'en aillent au maximum avant de le confier à l'enfant qui pourrait potentiellement le porter à la bouche.
Ouais, dites donc, il y a quand même des jouets en plastoc hein, dans la chambre de
con.
Vos enfants.
Ah, c'est très difficile
c'est
d'y échapper.
C'est quoi cet été en plastique, là?
C'est difficile d'y échapper. Après, voilà, on essaie de limiter, on essaie d'aérer, on essaie de laver, essuyer les produits. Ah ouais, non, c'est pas moi la première, je peux pas éviter, hein.
Reportage signé Thomas Chevineau. Et puis sachez que l'association WECF propose un guide gratuit des gestes simples à adopter pour éviter les perturbateurs endocriniens, disponible sur leur site
www.wecf.eu/Thibaut/
français. Véronique Vasseur, ils sont partout, hein, les perturbateurs endocriniens. S'en débarrasser, c'est mission impossible, une tâche digne de Sisyphe. Pouvez-vous nous donner quelques conseils supplémentaires pour nous mettre à l'abri des perturbateurs endocriniens quand on le peut, dans l'alimentation par exemple?
Bah, dans l'alimentation, c'est pas acheter ce qui est sous plastique, éviter, ne pas acheter des plats tout préparés, parce que là aussi, il y a de tout.
Limiter la consommation de certains poissons, comme
alors les gros poissons, plus le poisson est gros, plus il contient des cochonneries, donc il faut en manger une fois par semaine, les gros poissons. Faut privilégier les petits, faut pas exagérer non plus, parce que le poisson, c'est bien.
Éviter certains additifs, Robert Barouki.
Il faut laver les légumes, les éplucher, quand les fruits ne sont pas bio, il faut aussi les laver et les éplucher. Il y a des choses de base à faire, et puis, dès qu'on voit une liste, parce qu'il y a les perturbateurs endocriniens, il y a les additifs, il y a tout un tas de cochonneries. Et donc, quand on voit une liste de 4-5 trucs qu'on ne comprend pas, il ne faut pas acheter. Voilà,
Robert Barouki, il faut éviter certains additifs.
Oui,
je peux en citer quelques-uns. E307, E320, E321, E104, E110, E127, E173. La liste est longue.
Oui, et notre mémoire, hélas, n'est pas suffisante pour traduire tout ça. Mais à nouveau, je trouve qu'une association comme WECF fait un travail remarquable parce qu'effectivement, ils donnent des conseils de si on veut se protéger par précaution, même si parfois on n'est pas sûr, mais par précaution, et je pense qu'ils donnent des indications ainsi que d'autres. Donc là, il y a un vrai travail qui est excellent. Et puis, ne pas oublier quand même les additifs, les pesticides, hein, qui restent quand même une des grandes thématiques dans le domaine des perturbateurs endocriniens, surtout concernant l'alimentation.
Pascal nous dit par courriel, l'ameublement moderne émet beaucoup de perturbateurs endocriniens. Nous sommes en permanence en contact avec ces objets. Meubles en stratifié, c'est-à-dire le faux bois, canapé traité anti-tache, mousse de canapé, faux cuir.
Ah mais tout ce qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est anti-tache, imperméabilisant, anti-adhésif, etc. Le téflon, enfin, bon, tout ça, tout ce qui est comme ça, il faut éviter. Maintenant, on peut pas tout éviter, mais vaut mieux acheter une table en bois à la brocante, qui coûtera moins cher qu'un truc.
Dans les cosmétiques, le maquillage, on privilégie un écolabel,
oui,
plutôt.
Oui. Et c'est marqué maintenant de plus en plus sans parabènes. On a le droit en France à 5 parabènes. Alors il y a des bons parabènes et il y en a des mauvais. Donc il faut aussi faire... Bon, c'est pareil, éviter tout ce qui est parfumé, fragrance, etc. Tout ce qui n'est pas naturel, même dans la lessive, il faut faire simple, très simple, et puis c'est pas la peine de se barbouiller la tête. Je pense que ce qui est très important, c'est de faire un gros effort sur les petits, sur les bébés, parce que les lingettes, par exemple, pour nettoyer le derrière des bébés, sont pleines de... Bon, on n'en a pas besoin, à part en voyage, on peut laver avec de l'eau et du savon.
Et les couches?
Et les couches, ça, ben on est obligé de...
Les couches, il y a un problème.
Les couches aussi,
oui. Oui, il y a un problème. Il y a le technique de blanchiment, etc. Ça produit toute une série de substances secondaires qui peuvent être nocives. Maintenant, le but n'est pas non plus que tout devienne impossible à gérer. Le but, c'est plutôt de mettre l'accent sur un certain nombre de substances en disant, écoutez, essayez de les remplacer. gardons éventuellement quelque chose, mais qu'il soit débarrassé de ces substances.
Conseil voilà. De bon sens, docteur Barouki, on évite par exemple de traiter ces plantes d'intérieur avec des pesticides.
Oui, je pense que là, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement et assez rapidement, évident. Ne pas considérer que voilà, c'est quelque chose d'anodin. Il faut à chaque fois se dire, c'est pas anodin, et d'autant qu'à la maison, on prend aucune précaution. Hein, dans un milieu professionnel, on pourrait en prendre.
Bernard Jégou.
Oui, pour donner une note positive dans la continuation du reportage qu'on a entendu tout à l'heure sur des mesures de bon sens, en fait, on a des indications très objectives aujourd'hui qui montrent qu'un certain nombre de substances qui ont été interdites suite à la recherche et à prise de décision, eh bien, les expositions ont diminué de façon très forte chez les humains. C'est le cas de certains phtalates, par exemple. Donc, il y a le bon sens, et puis il y a maintenant l'action, naturellement, et on peut voir le bénéfice de cette action dans certains cas. Le problème des pesticides, par contre, là, au lieu de les diminuer, on les augmente en France, et je crois qu'il y a vraiment des mesures à prendre.
Comment lutter contre les perturbateurs endocriniens au quotidien ? On va essayer, hein, mais c'est une tâche difficile, surtout quand les lobbies de l'industrie agrochimique empêchent des décisions radicales au niveau européen, Robert Barouki.
Oui, donc là, on a un problème au niveau européen avec la définition. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur les critères qui définissent les perturbateurs endocriniens.
Pourquoi l'Union européenne n'arrive-t-elle pas à trancher sur les perturbateurs endocriniens, comme se le demande par exemple ce matin le quotidien La Croix? Pour la 8e fois en un an, les États de l'Union européenne ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur une définition réglementaire des substances chimiques qui interfèrent dangereusement avec le système hormonal. Qu'est-ce qui se passe? Et comment peut-on agir, nous autres citoyens, pour essayer de faire changer les choses?
Écoutez, il se passe que, en fait, il y a quand même des industries qui fabriquent ces substances et qui les utilisent et qui nous disent, à partir du moment où il y a de l'incertitude, pourquoi voulez-vous que moi, je fasse quelque chose qui va faire que mon produit va coûter plus cher, je vais peut-être mettre des gens à la porte, etc., alors qu'il y a de l'incertitude. Donc, or, l'incertitude, c'est inhérent à la science et la réponse est que, par définition, la plupart du temps, nous, on n'est pas dans une situation de certitude absolue. On est dans des situations d'incertitude et que là, il faut faire agir le principe de précaution. Donc ça ralentit beaucoup les choses.
Il y a des lobbies très puissants, donc on les subit. Par exemple, le glyphosate, dont tout le monde sait que c'est cancérigène, c'est pas un perturbateur endocrinien. Il est remis sur le marché. Je suis pas du tout optimiste.
Docteur Vasseur, qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin au ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, ou à la ministre de la Santé Agnès Buzyn? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Qu'il faut qu'ils fassent des lois pour éviter. Ça se fait par exemple au Danemark, ils sont bien plus en avance que nous. Il faut interdire les parabènes, etc. Toutes ces substances. Pour les enfants, pour les bébés et les enfants, c'est déjà, par exemple, la dame qui a téléphoné pour le gobelet. Bon, maintenant les gobelets en plastique vont être supprimés. Donc, faut quand même regarder. C'est pour les enfants surtout. Hein. Moi, je trouve.
Bernard Jégou, très rapidement, on arrive hélas à la fin de cette émission.
On a parlé de bon sens, je crois que par rapport à nos autorités, l'investissement, franchement, dans la recherche, on dispose de forces remarquables en France et en Europe sur ce sujet. Et la meilleure façon de lutter contre les lobbies, etc., c'est de faire encore avancer la recherche.
Docteur Barouki.
Moi, je crois que les ministres de l'Environnement et de la Santé sont convaincus, mais je voudrais peut-être dire un mot au ministère de l'Économie, parce que c'est bon pour l'économie aussi de faire des produits qui soient sains et qui pourraient être une marque France.
Merci beaucoup Bernard Jégou, en duplex de Rennes. Merci beaucoup Docteur Robert Barouki. Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette? C'est publié chez Solar. Merci Véronique Vasseur. Désintoxiquez-vous. C'est publié en poche chez J'ai lu, avec Nagui qui me colle.
Je peux l'avoir ou pas celui-là?
Oui, vous le tenez. Allez, bien. Cadeau. Cadeau pour vous, Nagui. Il y a qui comme invité d'ailleurs?
Bastien Vives, on parle de bande dessinée.
Bande dessinée, ouais, très érotique, non?
Vous l'avez lu donc?
Oui, je l'ai lu.
C'est chaud.
Je suis pas d'accord.
À tout à l'heure, Nagui.
Moi, je l'ai lu aussi.
Grand Bien Vous Fasse avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, la protection sociale de 4 millions de personnes.